Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'évangélisation demande la familiarité avec la parole de Dieu. Les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible. C'est par ces mots, citant lui-même le pape François, que Monseigneur Le Gray, archevêque d'Albi, conclut son dernier livre intitulé « Figure spirituelle chez Saint-Luc ». Un parcours de l'évangile de Saint-Luc à la rencontre de nombreux personnages, Marie, Joseph, Jean-Baptiste, Marie-Madeleine ou les publicains, pour nous aider à entrer dans cet évangile, pour nous aider à en découvrir la saveur et entrevoir un peu plus le vrai visage de Jésus. Monseigneur Le Gray, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Je disais donc en introduction, alors vous êtes peut-être moins connu de nos auditeurs, puisque donc vous êtes évêque du diocèse voisin, le diocèse d'Albi, qui est couvert, on va dire, dans une toute petite partie par Radio Présence, puisque vous avez une autre radio là-bas qui est RCF. Toujours est-il que vous venez de publier un ouvrage, Figure spirituelle chez Saint-Luc, aux éditions Artege, un itinéraire évangélique. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette promenade à la rencontre des personnages de l'évangile de Saint-Luc, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez commis ce livre ?
Alors, je crois que le but est simple et très clair. Il s'agit d'aider tout lecteur, tout fidèle du Christ, tout chercheur de Dieu à découvrir le visage du Christ. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi ne pas avoir braqué, si je puis dire, les regards sur le Christ d'abord et avant tout ? Bien parce que j'ai pensé que, en décrivant, enfin, en analysant le visage d'un certain nombre d'amis, de proches du Christ, on pouvait, je dirais, se mettre, découvrir soi-même comment être à côté du Christ, devenir ami du Christ, comme ces figures qui apparaissent pour la plupart dans l'évangile de Luc, des figures qui sont, je dirais, sympathisantes. Il y en a qui sont aussi des opposants au Christ. Mais évidemment, c'est plutôt en se mettant du côté des sympathisants. Et comment finalement, à travers les amis du Christ ou les proches du Christ, découvrir son véritable visage ? Et le seul moyen, c'est de lire l'Évangile. Donc, le but de ce livre, c'est évidemment de favoriser la connaissance de Jésus-Christ en prenant le temps, la peine de ce que l'on appelle dans la grande tradition la Lectio Divina, une lecture attentive et priée de l'Évangile. Et en plus, ce livre, si vous voulez, apparu au moment où nous sommes l'année C, et c'est donc l'Évangile de Luc qui est proclamé de dimanche en dimanche.
Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on a choisi ensemble certains personnages sur lesquels vous vous attardez dans cet ouvrage. Vous commencez par Marie, mais je fais le choix, j'espère que vous n'en serez pas fâché, de ne pas la citer. Je vous proposerai de commencer avec Saint-Joseph. Alors, avant que vous rentriez, c'est pareil, vous nous accompagniez dans cette lecture de l'Évangile selon Saint-Luc, à la rencontre de Saint-Joseph et de ce qu'on peut en comprendre. Sur Saint-Joseph, on se pose souvent une question, c'est que dans le fond, il y a très très peu de choses décrites sur Saint-Joseph. Est-ce qu'on ne se force pas à essayer de connaître quelqu'un que dans le fond, on ne peut pas vraiment connaître ?
Je pense que justement, j'y fais allusion en citant quelques grands contemplatifs, que de fait, Saint Joseph est un mystère pour nous. Hein, il y a une part de réalité voilée, cachée, c'est cela un mystère. Mais un mystère, c'est réel. Or, Saint Joseph a bien existé. Et c'est vrai que c'est un personnage très peu cité, mais qui, c'est pas parce qu'il est dans l'ombre du Sauveur, d'une certaine manière, que son rôle n'est pas important et qu'il n'est pas exemplaire pour nous. Or, je crois que ce qui est exemplaire et qui apparaît justement dans l'évangile de Luc, c'est la foi de Joseph, une confiance extraordinaire. Bon, il est qualifié de juste. le juste dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, et bien sûr toujours dans le nouveau, à l'époque de Jésus, c'est celui qui accueille ce que saint Paul appellera le dessein bienveillant du Père, qui accueille le projet de Dieu sur l'humanité. Or, dans le judaïsme, les justes, c'était ceux, justement, qui étaient à la recherche permanente de la volonté du Seigneur sur eux. Or, il semble bien que, justement, ce qui est extraordinaire dans la vie de Joseph, c'est la manière dont il a, un peu à l'instar de Marie, était, je dirais, capable d'accueillir un projet totalement inattendu pour lui, qui était celui de Dieu, la mission que Dieu lui a confiée d'être, je dirais, le gardien du Rédempteur et de sa mère, et non pas tout en étant l'époux de Marie. Alors évidemment, d'une manière qui aujourd'hui nous paraît, et surtout dans le contexte actuel, contexte moderne, souvent les gens sourient, et je ne suis pas très généreux, ils se moquent même de la place de Joseph par rapport à Marie et finalement par rapport au Christ. Alors que je crois que à la fois Joseph, bon, et cet homme de foi extraordinaire, et en même temps qu'il a été époux de Marie d'une façon tout à fait extraordinaire, mais réelle.
Alors, vous commencez ce chapitre, entre autres, en citant le passage où Joseph, en fait, donc apprend que sa fiancée est enceinte, sa promise, et puis donc vous faites mention donc l'apparition qu'il a de l'ange. Alors peut-être vous pourrez nous redire, parce que tout le monde n'est pas familier des Écritures. Toujours est-il que vous soulignez ça, vous dites c'est toujours Dieu qui a l'initiative, et avec saint Joseph, tout comme Marie, mais c'est particulièrement flagrant. Alors pourquoi? C'est quelqu'un qui d'abord écoute et agit en fonction de ce que lui dit le Seigneur.
Oui, je crois que justement, ce qui est fabuleux, c'est vrai de Marie, c'est vrai de Joseph. Comme je le disais à l'instant, ils avaient un projet qui était des épousailles à la manière juive. Bon, c'était un très beau projet. Et voilà que le Seigneur, d'une manière justement que nous qualifions de mystérieuse, qui nous dépasse, appelle Marie à devenir la mère du Messie. Être la mère du Messie, c'était le souhait de toute jeune fille à l'époque de Jésus. Une jeune fille juive, je dirais pieuse, espérait, il y avait une attente messianique forte, et voilà que Marie, d'une façon étonnante, reçoit cette annonce qu'elle va être la mère du Messie, et elle l'accepte. Bon. Et bien de la même manière, enfin d'une manière un peu différente, mais de la même manière en ce sens que Joseph va être, on peut penser, contrarié, troublé. D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit dans l'Écriture, son projet à l'égard de Marie est en quelque sorte contrarié, et en même temps, eh bien, il fait confiance à ce qui lui est annoncé, à ce qu'il découvre, et il accepte la volonté, une volonté du Seigneur totalement inattendue, et c'est ça qui est prodigieux, ça veut dire que véritablement c'est un homme de foi, c'est un juste, il cherche ce qui est juste pour Dieu, sachant que ce qui est juste pour Dieu, ça ne peut être que son bonheur.
Alors un peu plus loin, vous citez Jean-Paul II qui dit « Il est le premier à participer à la foi de la mère de Dieu, ainsi il soutient son épouse dans la foi à l'annonciation divine », ce que vous venez de dire. Mm-hmm. C'est vrai que souvent, enfin, Marie a pris une telle place dans l'Église que Joseph est dans son ombre, et même très très tellement dans son ombre qu'on finit par l'oublier. On peut dire que Joseph, c'est quoi? C'est l'homme de foi par excellence
C'est l'homme de foi par excellence, c'est l'homme qui a, et aussi qui a été l'éducateur, il a été le père adoptif de Jésus. C'est lui qui a, en quelque sorte, été la figure masculine pour Jésus. C'est quand même pas rien. Il a participé, si vous voulez, à la réussite de l'incarnation. Alors on est très dépassé parce que Jésus est le fils de Dieu et de Marie, mais Dieu a voulu que à côté de Marie, eh bien, il y ait cet homme qui s'appelle Joseph et qui a été certainement d'une attention magnifique et à l'égard de la mère et à l'égard de l'enfant, et donc qui a été véritablement époux de la Vierge et en même temps, eh bien, ce père adoptif qui a formé Jésus à la vie humaine, très probablement lui a transmis sa profession, son métier, jusqu'à ce que Jésus entre les trois dernières années de sa vie dans la vie publique.
Qu'est-ce que ça peut nous dire à tout à chacun avant qu'on aille plus loin ? Parce que vous dites que le but de votre livre, c'est de nous introduire à des grands amis. Alors là, on ne peut pas dire que ce soit un ami de Jésus, un ami du Seigneur, mais qu'est-ce qu'il peut dire à tout à chacun, Saint-Joseph ?
Je pense que... il ne dira pas la même chose à tout et à chacun, hein, mais je pense que cette figure d'un proche du Christ, d'un des plus proches du Christ, après Marie, eh bien, a une valeur quand même tout à fait exemplaire pour chacun d'entre nous. Joseph a plongé dans la confiance en Dieu. Il a fait confiance à ce qu'il a perçu de la volonté de Dieu sur lui, et il s'y est tenu. Non seulement, si vous voulez, il y a eu un moment où il a accepté le projet de Dieu sur lui, mais il s'y est tenu jusqu'au bout, visiblement, à tel point qu'on n'en parle même pas. Ce qui est le signe, d'une fidélité extraordinaire.
Et parce que hormis le fait qu'on sait qu'il était fiancé à Marie et qu'il a pris Marie chez lui, après on devine qu'il est mort. Mais sinon, c'est tout.
Oui, il n'y a aucune mention de sa mort. Il a accompagné, il a emmené Marie et Jésus en Égypte. Et puis après, nous n'en parlons plus, puisque les évangiles de l'enfant sont quelques chapitres.
Il y a la présentation au temple, quand même, on imagine.
Oui, la présentation
au temple.
Oui. Voilà, mais après, c'est tout. À partir de la vie publique, il n'en est plus question. Donc la tradition pense qu'il était mort. Mais...
Et ce silence a un sens, c'est pareil, il peut parler, ou est-ce que là, du coup, on interprète un peu trop ce silence ?
Je crois que, tout simplement, il n'était plus présent. S'il avait été présent, on en aurait parlé. Vous voyez, comme à Cana, il aurait été probablement là, parce qu'il semble que c'est un mariage à Cana où probablement d'amis, de proches, enfin, on ne sait pas, mais s'il avait été là, on l'aurait dit. Donc très probablement, il s'était éteint avant, mais ça, si vous voulez, avant que Jésus entre dans sa vie publique. Mais en même temps, cette discrétion de Joseph, ça va bien avec cette figure qui est d'une très grande humilité aussi. Pour accepter ce projet de Dieu, il fallait être un homme humble, un homme... L'humble, vous savez, c'est pas celui qui dit qu'il est un pauvre type, hein. C'est celui qui sait qu'il est un pauvre type, qu'il est pauvre, qu'il est limité, qu'il est une créature, tout simplement, mais une créature infiniment aimée de Dieu. C'est ça, l'humilité. Et du coup, Joseph est cela. Très probablement, d'ailleurs, on le voit, et au début, il ne comprend pas le projet de Dieu sur lui, et immédiatement, il l'accepte, et il l'accepte dans la discrétion. Et finalement, ce silence sur Joseph, je trouve, est en parfaite harmonie avec ce qu'on sait du personnage.
Alors, on avance, parce qu'il y aurait d'autres choses à dire sur Joseph, mais voilà, il faut lire ce livre, « Figure spirituelle chez Saint-Luc » de Mgr Legret, archevêque d'Albi, aux éditions Arthège. Autre figure, Jean-Baptiste. Alors, c'est pareil, peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers, est-ce que vous pourriez nous redire qui était Jean-Baptiste ? Et puis, petit à petit, nous dire aussi qu'est-ce qu'il peut dire à chacun. Jean-Baptiste, on peut se sentir très loin. C'est quand même le dernier des prophètes, quelqu'un qui se baladait en peau de bête dans le désert, mais...
Et le dernier est le plus grand.
Le plus grand, qui mangeait des sauterelles, et voilà, qui dès sa naissance a quelque chose de... Comment dire ? On sait que son destin est singulier.
Alors, oui. Donc, il est le fils de Zacharie et d'Élisabeth, Élisabeth étant une cousine de la Vierge. Donc, il est parent de Jésus, mais de fait, il a d'abord une naissance... tout à fait extraordinaire, et là aussi c'est d'une force symbolique très forte, puisque sa mère Élisabeth est, contrairement à la Vierge, qui est une toute jeune fille justement qui ouvre à une ère nouvelle. Élisabeth, elle est la figure de cette humanité usée qui ne donne plus rien, et de façon par pure grâce du ciel, elle va devenir la mère de...
Parce qu'elle était stérile, en fait.
Il semblait qu'elle était stérile. En tout cas, on peut penser qu'elle était même... Enfin, qu'elle était âgée, et, un peu comme Sarah, la femme d'Abraham, si vous voulez, qu'elle elle ne pouvait plus être mère, et qu'elle ne l'avait pas été, qu'elle ne pouvait plus l'être. Ou en tout cas, elle était déjà certainement avancée en âge. C'était plus une jeune fille. Et voilà que Zacharie reçoit, alors qu'il est au temple, il était prêtre, donc il allait régulièrement au temple assurer son service, il reçoit l'annonce qu'il va être père. Et il a un moment de doute, semble-t-il, qui fait que le ciel, enfin le Seigneur, le rend muet jusqu'au jour de la naissance. Et quand on lui dit, on lui demande quel sera le nom de l'enfant qui vient de naître, il dit son nom sera, enfin il écrit son nom sera Jean, hein, grâce du Seigneur, c'est ce que signifie ce nom, enfin don du Seigneur, grâce du Seigneur. Et là, il retrouve la parole. Et véritablement, ce nom est prophétique, parce que Jean va être celui qui va montrer le Seigneur. Hein, le précurseur, c'est celui qui précède. Et Jean va précéder, je dirais, quasi en tout, hein, le Sauveur lui-même. Sa naissance est, on peut le penser, de type miraculeuse, de même que la naissance du Seigneur. La naissance du Seigneur, de Marie, c'est une véritable... c'est une nouvelle création qui commence. Bon, eh bien, le Baptiste annonce cela. Après, il a une vie qui est tout à fait particulière, puisqu'il se retire au désert. Mais là aussi, je crois que...
Alors, je vous arrête, excusez-moi, parce oui. qu'au désert, vous dites un moment dans votre ouvrage, je ne sais pas si vous le dites comme ça, mais vous dites, il passe de chez papa et maman au désert. voilà, ce qui est une manière, en effet, enfin, originale de parler de Jean-Baptiste, mais qui dit quelque chose de très profond sur ce qu'il est. Il n'a pas, entre guillemets, enfin, besoin d'autre chose. Il a une telle soif de Dieu qui part directement au désert. Qu'est-ce que ça dit de lui et qu'est-ce que ça peut nous dire à chacun?
C'est-à-dire, je crois, vous voyez, que il faut connaître... on est en train de mieux connaître ce qu'on appelle le milieu intertestamentaire. En gros, de 150 avant Jésus-Christ jusqu'à la chute du Temple, jusqu'à 70. Donc, une période où, d'une part, il y avait une très forte attente messianique, et dans le judaïsme, des courants, de nombreux courants. Et il semble qu'il est très possible, et on le pense de plus en plus, que Jean-Baptiste, qui a vécu dans la vallée du Jourdain, tout près de Qumran. Le Qumran, c'est la cité des Esséniens.
Alors, rappelez juste pour le grand public, Qumran, c'est quoi déjà?
Ben, Qumran, c'est un lieu où on sait que...
Donc, en Terre Sainte.
En Terre Sainte, oui, au bord de la Mer Morte, donc à côté de Jéricho, où on a découvert, je crois que c'est en 48, la découverte de Qumran par le père Devaux, un dominicain de l'École biblique et archéologique française, à qui un marchand a apporté des fragments de manuscrits. Le père Devaux a été interloqué, s'est dit mais d'où ça vient, a réussi à savoir que c'était un bédouin qui avait apporté cela à ce marchand, c'est un antiquaire en gros, c'est comme ça qu'on les appelle à Jérusalem, et il a réussi donc à remonter la filière, et avec le bédouin s'est fait emmener là où le bédouin en question, qui gardait des chèvres, avait trouvé ce fragment de manuscrits, et dans des grottes, en fait, c'était tout un chapelet de grottes, si je puis dire, le père Devaux et avec d'autres a découvert des urnes qui contenaient des manuscrits très anciens de l'époque de Qumran. C'est extraordinaire parce que certains fragments sont d'avant Jésus, donc à peu près 100 avant le Christ, et donnent des textes de l'écriture. Parmi les textes des prophètes, enfin, je ne sais plus lequel, les plus anciens que l'on ait.
Et donc, il parle entre autres des Esséniens.
Et alors, et les Esséniens, en fait, ces urnes, c'était des textes, et on a retrouvé la règle des Esséniens parmi les manuscrits. Donc, c'était des gens qui vivaient, qui étaient en fait des Juifs proches du Temple, qui, un siècle avant Jésus-Christ, sont descendus dans le désert pour vivre une vie, je dirais, ascétique avant la lettre, hein, monastique avant la lettre, pour se préparer à accueillir le Messie. Voilà en gros ce que sont les Esséniens. Or, on peut penser...
Voire pour rater sa venue.
Oui, pour rater sa venue, pour vraiment être prêt à l'accueillir et pour sensibiliser le peuple, justement, à l'arrivée du Messie, et à prier pour cette venue. Et on peut penser, et certains l'affirment, bon, je crois qu'il faut être nuancé, mais que, aussi bien Marie, Joseph, que Zacharie, qui était prêtre, donc des milieux du temple, qu'Élisabeth, était dans la mouvance, parce qu'on sait parfaitement maintenant que non seulement il y avait ceux qui vivaient à Qumran une vie ascétique, des hommes et des femmes qui vivaient dans le célibat, qui vivaient une vie quasi monastique, tout en travaillant, bien sûr, il fallait se nourrir, et il y avait un tas de juifs qui vivaient dans la mouvance, un peu comme un tiers ordre, on dirait, aujourd'hui. Donc, Jean-Baptiste, il quitte papa-maman pour aller au désert, mais il sait ce qu'il fait. Et je pense on peut penser qu'il est dans la mouvance des Esséniens et que justement il va au désert pour vivre dans la prière, dans l'attente de la venue du Messie. Et voilà que c'est ce qui va se passer. Alors il prêche un baptême, là aussi il y avait tout un courant baptiste dans cette période-là. On le sait maintenant par des fouilles archéologiques, non seulement à Qumran où on pratiquait les bains de purification, mais les fouilles autour du temple ont montré à Jérusalem que dans la même période, il y avait tout un ensemble, de personnes qui prônaient ces rites de purification.
Alors on va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Figure spirituelle chez Saint-Luc », donc par Mgr Legré, archevêque d'Albi aux éditions Arthège. On fait une courte pause et on vous retrouve tout de suite. Voilà, ce matin, donc, une émission Vivante Église, figure de l'Évangile selon Saint-Luc, avec donc Mgr Legré, auteur d'un ouvrage « Figure spirituelle chez Saint-Luc », paru aux éditions Arthège. Mgr Legré, archevêque d'Albi, qui nous fait l'amitié d'être présent ce matin dans les studios de Radio Présence. Radio Présence qui, je le rappelle, est diffusée en partie, une petite partie du diocèse d'Albi, puisque vous avez également une radio RCF locale, radio amie de Radio Présence. Alors, parmi les autres figures que vous retenez, j'en ai sélectionné deux autres pour cette deuxième partie, ce sont les pharisiens et le démon. Alors, les pharisiens, avant qu'on rentre dedans, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les pharisiens, pour ceux qui vont de temps en temps à l'église ou ceux qui sont plus familiers? Jésus aime beaucoup, j'allais dire, il tape beaucoup sur les pharisiens. Qui étaient ces hommes, en fait, que Jésus a pas mal fréquenté, du coup, d'une certaine manière?
Bien, à l'époque de Jésus, il y avait dans le judaïsme des courants. On parle parfois de secte, mais je crois qu'il ne faut pas employer ce mot parce que dans notre vocabulaire à nous, une secte, c'est un groupe qui est séparé de l'Église. Or, ce n'est pas cela, même si on utilise le mot pour les pharisiens ou pour les sadducéens ou pour les esséniens. En fait, ce sont des courants, ce qui est tout à fait différent. Le judaïsme était composé d'un ensemble de courants. Comme on pourrait dire, on aurait pu dire il y a 50 ans, eh bien, dans le catholicisme français, il y a des... non seulement des mouvements, mais enfin, il y avait l'action catholique avec des courants, des groupes très différents, mais tous formaient l'Église. Forme toujours l'Église. Bon, donc les pharisiens sont à l'époque de Jésus probablement le courant ou l'un des courants les plus nombreux du judaïsme et des gens extrêmement fervents. Si le Seigneur Jésus est parfois, comme vous l'avez rappelé, un peu raide avec eux, sévère, c'est parce que ce sont parmi les Juifs de son époque ceux qui probablement étaient ceux qui connaissaient le mieux les Écritures. Et d'une certaine manière, qui étaient les mieux préparés à accueillir le Messie. D'ailleurs, toute une partie, il y a, et on le voit dans les évangiles, des pharisiens qui ont accueilli le Christ. Et puis finalement, Paul, qui, quand il se présente, est très fier de pouvoir dire qu'il est pharisien, qu'il appartient à ce courant fervent. Mais bon, comme il arrive parfois, et ça peut être toujours vrai d'ailleurs, les gens fervents sont parfois très orgueilleux.
Alors, on va y venir. Vous dites aussi dans votre ouvrage, quand vous abordez cette figure, que les pharisiens, même s'ils étaient souvent repris vertement par Jésus, ne le fuyaient pas d'une certaine manière. Ils étaient intrigués par cette personne qui est le Christ.
Je pense qu'ils étaient même beaucoup plus qu'intrigués. Ils étaient attirés par Jésus. Parce que l'enseignement de Jésus rejoignait leurs préoccupations. Alors, avec ce qu'il avait par rapport à ce que beaucoup pensaient, ce qu'il avait de nouveau. Mais ils étaient attirés. Ils étaient passionnés par ce que disait Jésus. Et on voit bien, par exemple, alors dans l'évangile de Jean, comment Nicodème vient de nuit. C'était un pharisien. Et il est passionné par... Et puis surtout, il pose de très bonnes questions à Jésus. Donc je crois vraiment que... Et ça explique, je pense qu'il y avait même... il devait y avoir de véritables amitiés entre certains pharisiens et Jésus, qui étaient plus qu'intrigués, qui étaient intéressés, qui admiraient Jésus.
Alors ce que vous dites quand vous continuez, vous citez donc certains des passages où Jésus reprend, vertement les pharisiens. Est-ce que vous pouvez en citer l'un ou l'autre et nous dire ce qu'il dit en fait, évidemment, qu'est-ce que ça peut dire à tout à chacun ?
Par exemple, dans une partie de ce chapitre, je parle des repas où Jésus se trouve avec des pharisiens. Et ce fameux repas où il y a la pécheresse qui parfume les pieds de Jésus.
Alors, recontextualiser, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être.
C'est un repas où Jésus est invité, et une pécheresse, qui est le maître de maison, est un pharisien. On trouve ça dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. Et ce pharisien accueille Jésus, mais enfin sans grande effusion, visiblement. Et il se trouve que pendant le repas, il y a une pécheresse qui survient et qui répand larmes et parfums sur les pieds de Jésus. Alors évidemment, ce n'était pas prévu, cette affaire-là. Et l'intrusion de cette femme et puis les attitudes de cette femme étonnent le pharisien qui pense que si Jésus était vraiment un prophète, il se rendrait compte de qui est cette personne qui le touche, puisque cette femme étant connue comme une pécheresse, le fait qu'elle touche les pieds de Jésus, c'était le rendre impur.
Une pécheresse, c'était a priori
probablement une prostituée, en tout cas une femme connue comme étant de vie douteuse. Après, le détail, je ne sais pas. Mais enfin, elle était connue comme pécheresse. Pécheresse, ça veut dire être touché par un pécheur quand on est injuste, c'est devenir impur. Or, Jésus le tolère Alors évidemment, le maître de maison est sidéré. Et voilà que Jésus va raconter une brève parabole et finalement va dire à cet homme, mais enfin, tu vois, je suis entré chez toi, mais tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Hein, visiblement, Jésus avait été accueilli, mais gentiment, mais un peu froidement. Or, cette femme, elle montre beaucoup d'amour. C'est ça toute la différence. Et Jésus va amener ce pharisien à prendre conscience, a-t-il compris, Dieu seul sait, mais que finalement ce qui compte c'est l'amour. Et à cette femme il va être beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Or, est-ce que le pharisien a véritablement aimé Jésus en le recevant ou l'a-t-il observé comme on observe un animal extraordinaire ?
Alors, j'entends ce que vous dites, hein, mais sans aller peut-être jusqu'à une observation passive, vous dites que certains avaient peut-être une amitié. Toujours est-il que les pharisiens, en général, vous l'avez dit là au début de votre intervention sur ce sujet, c'est un peu donc à vous entendre, c'est un peu les croyants qu'on peut être qui sont tentés, vous dites, par l'élitisme, l'autoritarisme, la suffisance intellectuelle et plus grave encore la suffisance spirituelle. Mmh. C'est pareil. Qu'est-ce que ça peut dire ? J'allais dire à tout à chacun, mais là. Monseigneur Legré, à travers les évangiles, vise en fait peut-être d'abord certains catholiques pratiquants ou les catholiques pratiquants que nous pouvons être ou non c'est...
Oh, bon, je ne me permettrai pas, mais il y a un danger très réel que nous soyons, et je pense que ça nous arrive tous, que nous soyons tel ce pharisien. Ce pharisien, finalement, il invite Jésus, mais il n'attend pas grand-chose de Jésus. Hein? Il lui est injuste, il pense être injuste, alors il se scandalise quand il voit Jésus se laisser approcher par cette femme, et en fait, bon, il n'a pas encore perçu que ce que Jésus vient apporter, c'est un amour miséricordieux, qui est l'amour même de Dieu, et qu'il est chargé, lui qui est le visible du Père, hein, comme dira saint Irénée, il est chargé de le montrer à l'humanité. Or, le pharisien, comme souvent nous-mêmes, nous n'en sommes pas encore là. Accepter le visage d'un Dieu qui est miséricordieux face aux pécheurs, ça suppose de se reconnaître d'abord pécheur. Or, c'est toujours une difficulté.
Alors on continue donc cette promenade évangélique, j'allais dire, donc avec une autre figure dont vous parlez, qui est le démon. Alors, le démon n'a pas bonne presse, et on va dire quand on est chrétien, on s'en réjouit. Toujours est-il que la foi de l'Église, c'est qu'il existe. Est-ce que vous pouvez peut-être introduire, j'allais dire, ce personnage, en dire un mot avant que je ne vous relance fort de ce chapitre ?
C'est-à-dire, je crois en fait que c'est très important. Aujourd'hui, le démon, on en parle davantage, mais il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, on avait l'impression qu'il avait disparu. Et ça, c'est très grave, parce que lorsqu'il disparaît, ça veut dire qu'il est vraiment à l'œuvre. Parce que c'est vraiment... c'est le diviseur, c'est le père du mensonge. Et dire qu'il n'existe pas... Enfin, à un certain moment, je me souviens d'un évêque qui est au ciel aujourd'hui, mais qui me disait « Ah, ça va mieux, on commence à reparler du démon ». Parce que je crois que vraiment, comme père du mensonge, je dirais, sa rouerie, c'est de faire penser, enfin de faire croire qu'il n'existe pas. Or, qu'on le veuille ou non, dans les évangiles, il est présent, et en particulier dans l'évangile de Luc. Donc, et dès le début de l'évangile, au moment de la présentation de Jésus au temple, Anne dit qu'elle prophétise que Jésus vient pour la délivrance. Mais la délivrance de quoi ? Eh bien, la délivrance de l'ennemi. L'ennemi par excellence, qu'est le démon ?
Alors, vous parlez du démon, vous parlez de la tentation, des tentations de Jésus au désert, puisque donc Jésus, j'allais dire, inaugure sa vie publique, en fait, oui, d'une certaine manière, en passant du temps au désert. C'est, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les évangiles et dans l'évangile selon saint Luc. Et puis, vous avez cette phrase, « Le démon, encore aujourd'hui, utilise le bien, utilise même la parole de Dieu, utilise ce qu'il y a de plus sacré pour nous tenter et nous induire en erreur. » Alors, qu'est-ce à dire et qu'est-ce que ça peut dire à tout à chacun, cette manière en fait très subtil qu'a le démon d'agir.
Vous savez, ce n'est pas un hasard si le démon est souvent nommé le malin. c'est un esprit extrêmement intelligent, hein, qui connaît le dessein de Dieu, le projet de Dieu sur l'humanité, et j'allais dire qui en meurt de jalousie, et qui fait tout pour que l'humanité, justement, qu'il méprise, parce que nous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le démon est un ange. Alors évidemment, comme on ne parle plus beaucoup des anges, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un ange, mais un ange, c'est un esprit, et un esprit qui vit dans la présence de Dieu, donc qui connaît le projet de Dieu sur l'humanité, qui est un projet plein de bienveillance et d'amour pour des créatures, mais des créatures qui, d'une certaine manière, sont très inférieures aux anges. Nous naissons à un endroit, nous vivons à un endroit, nous sommes limités dans le temps, dans l'espace. Un ange, il est éternel et il connaît tout le dessein de Dieu. Il vit dans la vision de Dieu. Et le démon est un ange, ne l'oublions jamais, un ange révolté, mais il a une science que nous n'avons pas et que nous n'aurons que dans la béatitude, éventuellement. Je ne sais pas exactement ce que nous aurons dans la béatitude. J'ai la certitude que nous aurons le bonheur. Mais est-ce que nous aurons toute la science des anges? Ce n'est pas dit. Bon, on la partagera en partie, certainement. Donc, vous voyez, les anges ont des capacités absolument extraordinaires, y compris les démons. Et ça, ce que je vous dis là, je pourrais montrer les fondements de ce que je dis dans l'Écriture. Donc, je crois que c'est heureux qu'aujourd'hui, il y ait...
Mais qu'est-ce à dire quand vous dites qu'il peut présenter un visage qui n'est pas du tout celui qu'on imagine?
Oui, parce qu'il prend des apparences de bien. Vous savez, je crois que les auditeurs peuvent comprendre très facilement. Aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de scandales apparaissent, hein, de manière tout à fait visible, que ce soit des prêtres, par exemple, des ministres qui posent des actes qui sont absolument à l'opposé de ce qu'on peut attendre d'un ministre, ou des communautés, bon, malheureusement, dans des nouvelles communautés, mais pas uniquement, il y a eu ces dernières années des scandales. Toutes les apparences étaient contraires. Et vous croyez que le démon n'y est pas pour quelque chose là-dedans? Pour moi, c'est une évidence. Mais justement, le démon est pervers. Et il arrive malheureusement que des pauvres hommes que nous sommes, des pauvres femmes, eh bien, succombent à des tentations et deviennent absolument les esclaves du démon.
Alors, à propos du démon, il y a une chose qu'il faut évidemment tout de suite préciser quand on parle du démon, quand on parle du diable, c'est, et vous, évidemment vous le faites, vous parlez de cet homme fort qui est le démon, mais de cet homme plus fort encore qui est le Messie.
Bien sûr.
Citant, mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnerait confiance et distribue tout ce qu'il a pris. Enfin, c'est pas tout à fait le bon passage, mais toujours est-il que, comment dire, vous rétablissez.
Bien sûr.
Et comment dire, tout à chacun parfois peut voir le mal à l'œuvre, et c'est d'ailleurs souvent ce qui fait que nombre de personnes ont du mal à croire. Mais si le mal est si puissant, en fait, le Christ l'est encore plus.
Ah, beaucoup plus que nous croyons, justement. Et ça, c'est la foi de l'Église depuis les origines. C'est que le Messie, en la personne de Jésus, a vaincu les puissances infernales, la mort, le péché. Donc, le Christ ressuscité est vainqueur. Et nous croyons Christ ressuscité. Donc, la prophétie d'Anne, que Jésus vient pour la délivrance, eh bien, s'est réalisée. Donc, nous n'avons pas à avoir peur du démon. Nous avons à être lucides. Bon, il existe. Il est vaincu et à nous de suivre le Christ justement pour lui échapper. Mais nous n'avons rien à craindre du démon.
Sur le démon, est-ce que vous voulez, il y a d'autres choses dont vous voulez parler? Peut-être le pape François lui-même au début de son pontificat ou à plusieurs reprises, par exemple parlant récemment de l'assassinat du père Hamel, a parlé du démon. Voilà, il n'en parle pas tout le temps. Mais il ne se cache pas.
Je dois dire que, vous savez que les derniers mots du père Hamel, c'est absolument bouleversant. Hein. Il aurait dit, d'après ce que j'ai pu lire plusieurs fois, « Va-t'en, Satan hein. !» Comme si cet homme, au moment de, je crois qu'on peut le dire, de son martyre, avait pris conscience que cette personne, enfin cet homme qu'il a égorgé, n'était pas lui-même, enfin qu'il était complètement agi par le démon. C'est bouleversant. Et en même temps, bon, ce que nous croyons, c'est que tout martyr est semence de chrétien. Hein, ça, c'est vieux comme les pères de l'Église. Donc, une mort aussi épouvantable, bon, c'est innommable, cet acte qui a été posé, eh bien, pour nous, est porteur de vie. C'est justement à cause de notre foi dans le Christ crucifié et ressuscité. Pour nous, la croix est un chemin de vie, conduit à un surcroît de vie. Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne.
On va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle pour ceux qui nous auraient pris en cours de route et qui n'auraient pas encore entendu le titre de votre ouvrage, « Figure spirituelle chez Saint-Luc ». Un itinéraire évangélique paru aux éditions Artege, donc avec vous, Monseigneur Legré, archevêque d'Albi. Merci beaucoup, on fait une deuxième pause, et puis on va continuer, on va finir notre promenade évangélique. Voilà, ce matin, donc, cette émission Vivante Église, figure de l'Évangile selon Saint-Luc, figure de l'Évangile selon Saint-Luc, je vais y arriver, à partir d'un ouvrage donc, de Monseigneur Legré, figure spirituelle chez Saint-Luc, un itinéraire évangélique paru aux éditions Artege. Je rappelle Monseigneur Legré qui est l'archevêque d'Albi, diocèse voisin de celui de Toulouse où est implanté donc, le siège de Radio Présence. Je vous propose pour finir cette balade à l'intérieur de votre livre et donc dans l'Évangile selon Saint-Luc à la rencontre, vous dites, de ces amis de Jésus. Alors là, c'est pas tout à fait des amis, vous les appelez les admirateurs de Jésus. Alors, sympathique titre, qu'est-ce à dire ? Est-ce que Jésus avait déjà ses groupies ou plus sérieusement, qui sont en fait ces admirateurs que vous avez sélectionnés ?
Si vous voulez, dans la plus grande partie de l'ouvrage, je parle de personnes bien précises, hein, la Vierge, Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste, Marie-Madeleine, etc., ou de groupes très repérés comme les pharisiens, les publicains. Là, dans ce chapitre, je parle de personnages finalement qui sont anonymes. Donc, on sait simplement, l'Évangile nous dit un homme, hein, une personne, disons, qui a rencontré Jésus, qui lui a posé une question. Donc, c'est tous ces anonymes qui ont été proches, enfin, qui ont rencontré, qui ont croisé, je dirais, Jésus, dont on ne sait pas presque rien, si ce n'est justement qu'ils ont posé une question, ils ont eu une réponse, mais nous ne savons pas ce qu'ils en ont fait.
Alors, avant qu'on introduise ces différents personnages, peut-être qu'on ne pourra pas tous les évoquer, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est aussi, on peut se dire, c'est tout à chacun.
Absolument.
Tout homme, en fait, au fond de son cœur, peut-être un jour, a posé ce type de questions à Jésus.
Absolument. Je crois que toute personne humaine
un jour,
cherche. Non, pas forcément croiser Jésus, mais enfin, je pense qu'une personne qui n'est pas croyante et qui lit l'Évangile, eh bien, est tout à fait comparable à ces anonymes qui interrogent Jésus et qui obtiennent une réponse, une attention, un regard de Jésus. Et après, c'est le secret entre le cœur du Christ et le cœur de l'homme ou de la femme, absolument libre d'adhérer ou pas.
Alors, ces premiers admirateurs que vous citez, c'est la rencontre des trois hommes pleins de zèle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre et quelles questions, en fait, ils posent au fond de leur cœur à Jésus, ou qu'est-ce qu'ils disent et quelle est la réponse?
Par exemple, il y en a un premier qui dit, il croit Jésus sur la route et lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Magnifique. On a l'impression que ce type est plein de zèle, il est prêt à tout. Et Jésus lui répond, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête.
Alors que veut dire Jésus déjà par un...
Je crois que Jésus là décrit ce qu'est sa vie, ce que finalement sera sa vie, qui se terminera sur la croix. Se mettre à la suite de Jésus, c'est accepter de le suivre jusque... sur la croix. Alors, je ne suis pas sûr que le personnage qui a posé la question, d'une part, ait véritablement compris la réponse, malgré son emballement, et de toute façon, je ne sais pas ce qu'il a fait.
Alors là, quelle question ça pourrait rejoindre? Parce que rares sont les personnes aujourd'hui qu'on croise qui disent de Jésus, je suis prêt à te suivre partout où tu iras, non?
Ça doit exister quand même. Dans les groupes de prière, ça existe. Des gens qui... En tout cas, j'ai souvent entendu des phrases tout à fait semblables. Bon, je pense qu'avec l'aide de l'Esprit-Saint, petit à petit, on parvient, justement, on parvient pas seul à suivre Jésus. On a besoin d'être accompagné. C'est le rôle de l'Esprit-Saint que de nous accompagner à la suite du Christ, de nous donner la capacité de mettre nos pas dans ceux du Christ et du coup d'accepter d'entrer dans le mystère de la croix, c'est-à-dire du renoncement à nous-mêmes.
Alors l'autre passage, l'autre admirateur que vous citez, c'est le jeune homme riche.
Oui.
Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que ce jeune homme riche? Quelle question il pose à Jésus et quelle réponse il...
Il interroge Jésus pour savoir ce qu'il faut faire pour le suivre que dois-je faire? Enfin, plus exactement, il interroge Jésus pour savoir comment avoir la vie éternelle. Donc déjà, c'est que quelqu'un, et là, il y avait différents courants dans le judaïsme, il appartenait donc à un courant qui croyait en la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus, donc, je dirais, discute avec lui et l'invite à aimer Dieu, à aimer le prochain. Et l'homme répond tout simplement, mais tout ça, je le fais depuis ma jeunesse. Et Jésus lui dit, une seule chose te manque, vends tout ce que tu as et suis-moi. Le texte nous dit que l'homme devint tout triste car il était très riche. On ne sait pas ce qu'il a fait. Apparemment, il n'a pas couru immédiatement à la suite du Christ. Mais allez savoir, on ne sait pas. Peut-être que plus tard, il a réfléchi. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, il n'a pas... Enfin, il a été extrêmement peiné par cette invitation à suivre Jésus. Donc, il n'a pas encore découvert que Jésus était le chemin du bonheur.
Quel est du coup, entre guillemets, le sens de la réponse de Jésus et quelle question ça peut faire écho?
Eh bien, la question c'est de savoir si on met le Christ à la première place ou pas. Cet homme est invité à mettre Jésus à la première place. Distribue tes biens, suis-moi. Tes biens, c'est secondaire. Et je crois que, pour répondre très directement à votre question, c'est la question. Mettons-nous Jésus à la première place. C'est ça, être un disciple, être un chrétien. Alors ça paraît évidemment très abrupt, mais je pense qu'il y a des riches qui mettent Jésus à la première place et des pauvres qui ne le mettent pas à la première place. Ça paraît paradoxal ce que je vous dis, mais j'en suis convaincu. Hein? La question, ce n'est pas de posséder des biens, c'est de savoir qui est premier dans notre vie.
Si on continue cette balade enfin, à la rencontre de ses admirateurs, il y a aussi cet homme donc, qui se trouve... que Jésus rencontre et il lui demande de le suivre, on va dire, tout de suite. Cette personne, ou si en plus si c'est un jeune homme, demande à pouvoir aller enterrer son père, si je ne me trompe pas, son propre père qui est décédé. Et Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts. Quant à toi, va annonce le royaume de Dieu. » Alors, quel est l'objet de cette rencontre? C'est pareil, troisième réponse du Christ. On va dire qu'il s'y prend, enfin, drôle de manière de s'y prendre avec ses groupies quand même, hein, parce que...
Oui, mais bon, je crois que ça... si vous voulez, la réponse de Jésus est tout à fait similaire à celle du cas précédent que nous venons d'analyser. Hein. Il s'agit de savoir si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père. Donc il y a un ordre. Il ne s'agit pas de ne pas aimer ses parents, mais il s'agit d'aimer Dieu avant ses parents. Et parce que Dieu est père, enfin, en quelque sorte, enfin, il y a une priorité. Alors, encore une fois, ça sonne très durement. D'ailleurs, dans le texte hébreu, on a beaucoup de nuances en français, mais dans le texte hébreu, c'est le verbe haïr. Hein, si quelqu'un vient à moi sans haïr, bon, nous on met sans préférer parce que c'est le sens. Mais c'est pour bien... il est quand même important d'être lucide. Jésus nous demande de placer Dieu à la première place. Mais c'est vieux comme la révélation. Hein. Lorsque Dieu se fait connaître à Moïse, il lui demande, il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Bon, et il y a aussi l'amour des parents dans les commandements. Hein, mais je crois que nous ne sommes pas suffisamment conscients, enfin, ces admirateurs hein, qui approchent Jésus leur dit le cœur du message, qui est de donner à Dieu la première place. Et il se trouve que dans l'enseignement de Jésus, arrive à la première place ex aequo l'amour du prochain. Hein, c'est tout un.
Mais alors, pardon, hein, devant un évêque dire ça, c'est peut-être un petit peu gênant, mais bon, les journalistes se prennent quelques libertés, mais on peut se dire que Jésus aussi, de prime abord, on peut se dire qu'il s'y prend d'une drôle de manière, parce que ces personnes ne le connaissent pas vraiment, et en gros, il leur dit, mais si vous voulez vraiment me connaître, il faut tout quitter. Entre guillemets, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire quand on rencontre, par exemple, quelqu'un qu'on aime, on apprend à le connaître avant éventuellement de quitter son père et sa mère et de se marier.
Oui, mais alors là, je vous reprends tout de suite. Je pense oui. qu'il faut se placer dans le contexte de la période des évangiles. C'est comme aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous allez en Afrique, Dieu est partout. Vous allez en Amérique du Sud, Dieu est partout. Nous vivons dans une Europe complètement sans Dieu depuis 2 siècles. Mais il n'y a qu'en Europe que c'est comme ça. Vous allez en Afrique du Nord, c'est pareil. Dieu est partout présent. Donc, ils étaient préparés. Ces admirateurs de Jésus, ils se posaient des questions sur l'identité de Jésus. Était-il le Messie, oui ou non?
Était-il l'envoyé? Déjà juif et religieux,
mais c'est bien ça. Bien sûr. Mais bien sûr. Donc, ce que Jésus leur dit ne les surprend pas autant que nous qui vivons sans Dieu. Et je crois qu'ils étaient tout à fait aptes à comprendre, mais en fait, la difficulté est quand même toujours la même. Même quand on est préparé, comme le peuple d'Israël, accepter l'enseignement de Jésus, les exigences du royaume, c'est toujours un pas, je dirais, un saut. Un saut, non pas dans le vide, mais un saut dans les bras de Dieu. Et ça nous fait un peu peur, parce qu'il y en a un autre qui nous dit « Oh là, oh là !» Il s'appelle le démon, celui-là. Et je crois que, justement, tous ces grands personnages que je décris, qui ont été capables d'un acte de confiance extraordinaire, comme Marie, comme Joseph, comme finalement le Baptiste, enfin, Pierre, Marie-Madeleine, ce qui est fabuleux, justement, c'est leur foi. Ils ont accepté de reconnaître Jésus pour ce qu'il est et ils ont découvert que les exigences du royaume sont chemin de bonheur. Parce que je crois que c'est cela la grande affaire, c'est de découvrir qu'en fait ce que les exigences qui sont réelles, mais sont un chemin qui rend heureux. Et je crois que c'est une des questions actuelles. Hein, beaucoup de personnes qui sont loin ou qui sont chercheurs de sens n'ont pas perçu à quel point le christianisme est un chemin de bonheur.
Voilà, donc lisez les évangiles si vous avez entendu cette émission, et puis lisez, vous pouvez aussi prolonger cette émission en lisant le livre de Monseigneur Legré, Figure spirituelle chez Saint-Luc, un itinéraire évangélique. Je vous rappelle donc le titre de cet ouvrage aux éditions Artege. Merci beaucoup, Monseigneur Legré. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet, qui est aussi le vôtre d'ailleurs, ou sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.